le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes. La jeune chanteuse américaine Billie Eilish a raflé les principaux prix des Grammy lors d'une cérémonie dédiée au défunt basketteur Kobe Bryant, mort dans un accident d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans. À 18 ans, Billie Eilish a été sacrée révélation de l'année et album de l'année. Son titre Bad Guy a reçu le prix de la meilleure chanson et du meilleur enregistrement.
I'm the bad guy. Duh.
Elle devient ainsi la plus jeune artiste à réussir un tel exploit. Billie Eilish a aussi remporté le Grammy du meilleur album vocal pop, s'inclinant seulement face à la rappeuse Lizzo dans la catégorie de la meilleure performance pop solo. Lizzo est aussi repartie avec un prix pour sa performance de Rhythm and Blues sur Jérôme et celui du meilleur album de musique urbaine contemporaine pour 'Cause I Love You. Pendant la cérémonie, Billie Eilish a déclaré qu'Ariana Grande, qui n'a reçu aucun prix malgré 5 nominations, méritait plus que tout au monde le prix de l'album de l'année pour Thank You Next. Élue présidente de la Grèce le 22 janvier, Ekaterini Sakellaropoulou rejoint le cercle encore restreint des femmes dirigeantes de l'Union européenne. Pour un petit tour d'horizon des femmes chefs d'État ou premiers ministres de cette zone, on citera en premier lieu la chancelière Angela Merkel qui dirige l'Allemagne depuis 2005. Kolinda Grabar-Kitarovic, 51 ans, est présidente de la Croatie depuis 2015. Elle va toutefois céder son poste le 18 février à Zoran Milanovic qui l'a battue au second tour de la présidentielle le 5 janvier. Meti Frederiksson est devenue en 2019, à 41 ans, la plus jeune première ministre de l'histoire du Danemark, tandis que Kirsti Kaljuleid est devenue en 2016 la première présidente de l'Estonie. En Finlande, Sanna Marin est devenue le 10 décembre 2019, à 34 ans, la plus jeune chef de gouvernement en exercice de la planète. Et Susanna Kaputova, investie le 15 juin, est la première femme à conquérir la présidence slovaque.
Parole de femme.
Les attaques à l'acide contre les femmes augmentent dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux, où elles étaient quasiment inexistantes jusqu'aux années 2000. Pour avoir une idée de l'ampleur du phénomène, entre janvier 2015 et mai 2018, 2602 attaques à l'acide ont été perpétrées sur le territoire britannique, soit plus de 2 par jour. Dans la nuit du 24 au 25 avril 2017, Awakasiré, de nationalité tchadienne, a été brutalisée et attaquée à l'acide en Haïti par son propre mari et 2 autres hommes, affirme-t-elle. Son ex-mari, un Zimbabwéen qui travaillait alors pour l'église épiscopale américaine, a disparu avec ses 3 enfants dont elle n'a plus de nouvelles. J'ai joint Awakasiré à New York où elle a obtenu le droit d'asile. Son témoignage est poignant, c'est celui d'une femme qui se bat quasiment seule pour que justice soit faite.
J'ai dormi avec mes enfants dans la chambre. En ce temps, on faisait séparer avec mon mari pendant presque 9 mois et je fermais la porte à clé. Mais j'ai vu la silhouette de 2 personnes entrer dans la chambre. J'ai été torturée et aspergée d'acide. Après, j'ai été dans un premier hôpital appelé Hôpital Espoir. Et ils ont dit que mon cas était sérieux, qu'ils ne pouvaient pas me prendre en charge dans leur clinique. Ils ont essayé d'appeler Médecins sans frontières. Je devais être transférée dans un véhicule médicalisé à cause de l'oxygène parce que je ne respirais plus.
Qui est-ce qui vous a donc emmené à l'hôpital? C'est votre mari? Est-ce qu'il était dans la maison?
Oui, il était dans la maison, il était même dans la chambre. Donc, au début, il avait refusé. Je l'ai supplié.
Pourquoi il a refusé de vous amener à l'hôpital? C'est ce que vous dites?
Oui, il a refusé.
Pourquoi?
Je ne sais pas.
Qui étaient ces personnes qui vous ont versé de l'acide sur le visage? Vous les avez identifiées?
Oui, le premier, c'est mon mari, Sukumbozo Mounja. Le deuxième, c'est le chauffeur Joseph Gazi. Et le troisième, je ne le connais pas. Je suis vraiment certaine de l'identité. Quand j'étais sûre que j'étais déjà vers la sortie, vers l'hôpital, je lui ai posé la question à mon ex-mari. Pourquoi tu en es arrivé là à cette atrocité? Il m'a regardé dans les yeux, il n'a rien dit. J'ai posé la même question pour la deuxième fois, pour la troisième fois. Il m'a dit, si tu veux que je t'amène à l'hôpital, je t'amène. Si tu me poses encore cette question, tu descends de ma voiture.
Et donc, est-ce qu'il y a eu une enquête après cela?
Pendant le temps que j'étais à l'hôpital, il n'y avait pas une enquête. Puis j'ai appelé mon avocate de l'époque, Maître Théa, qui avait fait appel à la police. Ils étaient venus à l'hôpital prendre ma déposition à la veille de mon évacuation sur Memphis, Tennessee. Il paraît qu'il a été interviewé et il a nié les faits. Et depuis lors, rien n'a été fait. En 2018, j'ai pu avoir un autre avocat, Maître Camille Leblanc. Il est allé à la police. Il n'y a aucun dossier qui prouve qu'il y a une enquête. Il a été plusieurs fois à la police. Personne ne répond.
Est-ce qu'il y a eu d'autres organismes éventuellement qui ont fait une enquête?
C'est l'Église épiscopale américaine. Le monsieur s'appelle Geoffrey Smith, le chief operator. Il avait appelé quand j'étais à Memphis parce que ce sont ses employés.
C'est que votre mari, à l'époque, travaillait pour cette église, c'est cela?
Exactement. Et donc, ils m'ont appelé que si je collabore, ils vont faire une enquête pour savoir si c'est vraiment leur employé qui a commis cet acte. Et si c'est le cas, que justice sera faite et que j'aurai mes enfants. Ils ont envoyé 2 enquêteurs à Memphis. J'ai collaboré. Et au mois de décembre 2017, le résultat était sorti. Ils ont appelé mon avocate à Noyon pour lui dire que c'est vrai que c'est notre employé qui a agressé votre cliente. Mais cette affaire a déjà entaché notre réputation. Est-ce qu'on pourrait avoir un arrangement? Comme elle veut ses enfants, nous allons l'aider à avoir ses enfants, mais on va payer notre employé pour qu'il disparaisse ou bien il ne peut pas continuer à rester en Haïti.
Mais pourquoi l'Église n'a pas dénoncé l'employé en question?
Je suis vraiment surprise aussi qu'une Église aussi bien réputée essaie d'étouffer une histoire. Pour moi, le meilleur, c'était de l'exposer et c'est d'aider la victime.
Aujourd'hui, Madame Kassiré, vous attendez bien entendu toujours que justice soit faite. Vous attendez réparation pour ce qui vous est arrivé. Qui est-ce qui vous soutient aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un espoir qu'il y ait une autre enquête qui soit entreprise et qu'il y ait des poursuites contre les personnes qui vous ont fait ça?
En ce qui concerne la justice, je n'ai aucun soutien. Je me bats presque seule. Ça fera bientôt 3 ans. Et c'est comme si, après l'attaque, je suis devenue comme la poisse, même. Quand tu te retrouves sans famille, sans boulot, sans enfant, sans personne, et c'est comme si il n'a pas réussi à me tuer physiquement, mais pour mes enfants, je suis quand même morte. Où est la justice? Où est l'humanité dans tout ça? Pourquoi tout le monde s'éteint? L'acide, même le feu est mieux que l'acide. Vous voyez votre peau tomber, même après 1 semaine, 2 semaines, c'est comme si ça continue à broyer votre peau. Donc, ce genre d'homme qui utilise l'acide sur un être humain, il ne peut pas être en liberté.
Est-ce que vous bénéficiez d'un soutien psychologique aujourd'hui aux États-Unis?
Oui, mais c'est impossible d'oublier ça.
Est-ce qu'il y a quand même quelqu'un qui vous soutient dans votre entourage?
Non, quand j'ai été chassée de l'hôpital, quand ils m'ont dit que c'était des problèmes d'argent, j'ai appelé la famille. L'hôpital m'a dit que c'est ça, le montant de mes factures. Et tout ce qu'ils m'ont dit, que la personne qui m'a aspergé d'acide. C'est à lui de payer les factures médicales. Et lui aussi, il a dit qu'il ne paye rien du tout. je me suis retrouvée dans cette situation parce que j'étais chassée 48 heures après avoir fait la reconstruction du visage. Donc, toute la peau du dos était ouverte, séante, avec l'autre côté de la jambe séante. Je ne pouvais même pas me procurer des antibiotiques. Je marchais à peine. Après 3 jours, les yeux s'étaient infectés. Je ne pouvais même pas me tenir debout. On était obligé, comme si on était encore au 16e siècle, on achetait du sel, mettre dans l'eau chaude, nettoyer la plaie.
Qu'attendez-vous exactement? On peut très bien imaginer ce que vous attendez, que justice soit faite, que vous puissiez voir vos enfants. Quel appel faites-vous pour que l'on vous apporte l'aide dont vous avez droit?
Madame, c'est comme si les violences faites aux femmes, c'est devenu quelque chose de banal. On dit que c'est un problème conjugal, c'est un problème personnel. Et c'est comme si c'est devenu à la limite normal. Ce n'est pas normal qu'une personne abuse de l'autre et s'en sorte avec. Je suis défigurée, il se peut que mes enfants ne me reconnaissent pas.
C'était un témoignage de Hawa Kassiré, victime d'une attaque à l'acide en 2017. Un tribunal égyptien a tranché en faveur de l'application pour les citoyens coptes des règles chrétiennes qui accordent aux femmes et aux hommes les mêmes droits en matière d'héritage, a indiqué l'avocate Oda Nasrallah. Jusqu'ici, c'était la loi islamique prévoyant que les hommes héritent du double de la part d'une femme qui s'appliquait aux citoyens coptes, et ce, bien que le règlement orthodoxe garantisse l'égalité entre les hommes et les femmes, a déclaré Madame Nasrallah. L'avocate, qui s'est elle-même retrouvée contrainte de saisir le tribunal afin que l'héritage de son père soit équitablement partagé entre elle et ses deux frères, a finalement obtenu gain de cause. La décision de justice s'appuie sur l'article 3 de la Constitution égyptienne de 2014 qui garantit l'application des règles chrétiennes régissant l'héritage dans des affaires concernant les chrétiens. Le Bénin est connu pour la pratique de religions traditionnelles. Comme dans la plupart des confessions, ce sont généralement les hommes qui occupent le devant de la scène. Mais on y retrouve aussi des femmes, nous dit notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleura Dandé.
Elles occupent rarement le devant de la scène, mais elles possèdent dans l'ombre le secret de bien de rituels. Pour renoncer Clota, même si l'homme semble prendre le devant de tout dans le monde vaudou, la femme incarne la force spirituelle de tout ce qui se fait, même en ce qui concerne les divinités inaccessibles aux femmes comme les revenants.
La femme tient une place de choix dans le monde vaudou. Elle est la lumière, elle est l'esprit du monde vaudou. Tout passe par elle. C'est par mesure de précaution que les devanciers inculquent aux plus jeunes la soumission, la discrétion. Le secret. Dans nos couvents, les hautes fonctions lui sont interdites, mais elle les a, sans qu'on le leur attribue officiellement. Il n'y a pas de rituel qui puisse réussir sans l'intervention de la femme, mais cela lui est présenté sous forme d'obligation et non comme un pouvoir. C'est de cette façon que nous arrivons à protéger notre héritage ancestral.
Dans la discrétion de sa visite à ses parents, Nalilé est revenue sur le jour où elle a été donnée à la divinité Sapata, encore appelée Dieu de la Terre. Elle raconte comment a démarré cette aventure et la place qu'elle occupe.
Je suis adepte du Dieu de la Terre depuis mon enfance. C'est à 4 ans que je suis rentrée de force au couvent et aujourd'hui, à 35 ans, je suis l'une des responsables. La majorité des cérémonies de libation, de rituels sacrés, doivent passer par moi. Au début, cela a été difficile pour moi, mais aujourd'hui, quand je fais le point de tout ce que j'ai pu récolter comme bienfait, je me dis que j'ai été chanceuse.
Si certaines sont parvenues à s'adapter, ce n'est pas le cas d'autres qui y sont malgré elles et par respect pour une croyance qu'elles sont obligées de porter jusqu'à leur dernier souffle. Marino raconte son histoire.
J'ai été enlevée à ma mère au bas âge. On m'a raconté que j'étais encore aux 7 ans, ce sont d'autres femmes du couvent qui m'ont allaitée. Je n'ai pas connu ma mère et cela reste un souvenir douloureux. J'ai eu d'autres mamans au couvent, mais ce n'est pas la même chose. Ça me fait 25 ans de vie au couvent et je transgresse les interdits pour vous dire ce qu'a été ma vie. Honnêtement, je n'ai pas choisi cette vie et même après tant d'années d'initiation, je ne suis pas encore arrivée à l'accepter. Mais je suis dedans et la vie continue. Mais c'est dur.
Contrairement aux deux premières qui ne savent ni lire ni écrire, Martine de Souza est différente. Elle est linguiste de formation, interprète, documentaliste, réalisatrice de films et reste une adepte de la sirène des eaux et de la divinité trempe.
Une femme de vaudou est traitée avec mépris parce qu'on nous prend pour des sorcières et malfaiteurs. Nous sommes là pour donner la vie, pour partager le bonheur. Mes ancêtres m'ont appelé, les divinités m'ont appelé et je ne pouvais pas résister.
Selon certains devanciers, les femmes resteront des têtes de pont dans le milieu traditionnel vaudou, de l'éducation en passant par l'initiation aux réalités du monde jusqu'à l'apprentissage de la langue des adeptes. Les femmes dans les couvents restent incontournables. De Cotonou, Jeannette Leur dans les VOA Afrique.
L'armée israélienne va relancer son programme pour des femmes tankistes suite à un appel à la Cour suprême de femmes demandant à être recrutées dans les unités de blindés. Le programme pilote tenu en 2017-2018 visait à étudier la possibilité de recruter des femmes dans ces unités et avait notamment permis la formation de membres d'équipage et de commandantes de chars. Le chef d'état-major Aviv Kwavi a décidé de passer au niveau supérieur dans le processus d'examen de l'intégration des femmes dans les missions de défense des frontières. Israël, où la majorité des citoyens sont astreints à un service militaire de 2 ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans pour les femmes, compte des unités d'infanterie mixtes ainsi que des femmes pilotes. Le Parlement a voté en 2000 une loi sur la parité obligeant l'armée et les services de sécurité à accepter les femmes à tout type de poste.
Entre parenthèses.
L'État sénégalais a annoncé un plan de développement solidaire et inclusif pour l'accès universel à l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement, l'électricité ainsi qu'aux services de transport à l'horizon 2025. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
À Dakar, les habitants n'ont pas tous un accès total aux services. Dans certains quartiers comme Warouaï, l'on manque de tout. Nene Fofana, l'une des premières habitantes du quartier, liste les difficultés qu'il traverse depuis une décennie.
Quand je venais ici, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, ni école, ni marché. Les véhicules n'avaient pas accès à la cité. On était obligé de marcher jusqu'à la cité Gadaï pour avoir une voiture et rallier Guédiawaï. L'accès ici était très difficile à cause des agressions. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime d'agression 3 fois. Mais aussi mes 2 enfants ont été victimes d'agression. Dieu merci, l'année dernière, lors de la campagne électorale, l'État a satisfait quelques de nos doléances.
Si les habitants ont finalement eu accès à quelques commodités comme l'électricité, l'accès à l'eau demeure un problème majeur et les femmes sont les principales victimes. Astobari raconte leur calvaire quotidien.
Il est difficile d'avoir l'accès à l'eau. Nous les femmes, nous mesurons à quel point il est difficile d'avoir de l'eau. Moi qui vous parle, j'achète de l'eau à 25 francs la bouteille et chaque jour je dépense plus de 500 francs pour mon approvisionnement en eau. C'est très difficile. À défaut d'avoir une charrette pour transporter l'eau, nous la portons nous-mêmes. On n'a que 2 robinets pour toute la cité. Il n'y a pas d'eau dans les foyers. Les 2 robinets se trouvent dans la rue. Nous implorons aux autorités de nous aider à avoir l'accès en eau dans les maisons.
Du côté des autorités municipales, on affirme que des programmes sociaux sont en cours d'étude pour permettre aux populations d'avoir des conditions de vie meilleures. C'est ce qu'indique Abdoulaye Ba,
conseiller technique du maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye.
La commune a un programme d'essayer de cartographier la pauvreté multiforme au niveau des 22 quartiers. Peut-être après cela, si réellement on a cette maîtrise, là, le maire pourra apporter des solutions correctes. Parce que la pauvreté souvent n'est pas monétaire. Maintenant, on veut vraiment maîtriser cette pauvreté-là au niveau de la commune de Ndiarème Limamoulaye pour voir qu'est-ce qu'il faut faire ou améliorer par rapport au déficit des populations.
Au Sénégal, l'accès universel aux services de base est un combat quotidien pour les populations. Pour y remédier, le gouvernement a lancé un plan de développement qui devrait assurer la couverture totale de ses besoins à l'horizon 2025. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
Plus d'un tiers des filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans. Le taux le plus élevé se situe le long de la frontière avec le Nigeria, où 60% des filles mineures sont mariées de force. Certains parents justifient ces mariages précoces en disant qu'ils le font pour protéger leurs filles du groupe islamiste Boko Haram. Une explication très mal perçue par les autorités qui condamnent les unions forcées des enfants. Anne Zouanke a rencontré des familles à Krawamafa. Je relate ici son reportage. Lors d'un raid de Boko Haram sur la ville frontalière de Krawamafa, il y a 4 ans, les militants nigérians ont enlevé Julie alors qu'elle n'avait que 13 ans. Aujourd'hui, âgée de 17 ans, elle se souvient lorsque le groupe islamiste l'a forcée à épouser l'un des membres.
C'est un petit enfant, je n'ai pas fait comme ça. Il dit que tu vas devenir notre femme. J'ai dit non, pardon, laissez-moi, je vais rester avec ma mère. Ils ont tué mon papa, encore vous me prenez pour aller au Brousse là. Laissez-moi, je vais rester avec ma grand-mère.
Julie a ainsi été enlevée par les islamistes. Elle a pu s'échapper à la faveur d'un affrontement avec l'armée camerounaise et elle est retournée dans son village. Mais sa famille avance que les attaques fréquentes des militants ont fait craindre que le groupe vienne la reprendre. L'oncle de Julie l'a alors mariée de force à un homme de 40 ans, vivant à 120 km pour être sa troisième épouse.
J'avais beaucoup de difficultés. J'avais beaucoup de fermes avant qu'ils prennent nos terres. J'avais des chèvres. Ils sont venus et ont tout pris et détruit les maisons. Maintenant, je n'ai rien. Je voulais que ma nièce soit en sécurité.
L'UNICEF indique que si plus d'un tiers des filles camerounaises sont mariées avant l'âge de 18 ans, le taux grimpe à 60% le long de la frontière avec le Nigeria. Alors que la culture joue un rôle, les parents disent qu'une autre raison est de protéger leurs filles de Boko Haram. Cependant, le ministère camerounais de la promotion de la femme et de la famille affirme que la menace des islamistes ne devrait pas être utilisée comme excuse pour le mariage des enfants. Alors que les parents devraient plutôt envoyer leurs enfants à l'école, souligne le délégué régional du ministère Elingele.
Que vous soyez dans les zones d'insécurité, ou dans les zones pacifiées, ou dans les zones qui vivent dans la paix, les enfants, l'idéal serait que l'enfant aille à l'école et non en mariage. Il ne faudrait pas que les parents prennent pour prétexte le fait que la zone soit dans l'insécurité.
Il y a 2 ans, une voisine a permis de sauver Julie en témoignant de son mariage forcé à l'Association pour la promotion de l'autonomie et des droits des filles et des femmes. Aujourd'hui, dans un refuge pour enfants victimes de mariage, Julie prend des cours pour la première fois de sa vie. Elle espère trouver un emploi et choisir son propre mari lorsqu'elle sera prête. Chères auditrices, chers auditeurs, le monde au féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel, juste après les nouvelles. Sur notre site internet, visitez aussi voafrique.lmf pour consulter nos articles, vidéos, interviews et les autres éditions déjà parues. C'était Nathalie Barge avec vous. On reste en contact. Bon courage et à très bientôt.
Arrête.